Bonjour, à l'occasion de la journée du livre d'histoire qui se tiendra demain au Sénat et qui sera consacrée aux femmes, aujourd'hui dans 2000 ans d'histoire, une des femmes les plus célèbres de la Révolution française, Madame Roland.
Madame Roland ressemblait à la République qu'elle avait conçue. Belle, éloquente, les pieds dans le sang de ses amis et la tête tranchée par son propre glaive, oubliée d'un peuple qui ne la reconnaît pas. Lamartine.
D'histoire. Ô liberté, que de crimes on commet en ton nom. Sans ces quelques mots très connus de Madame Roland prononcés quelques secondes avant qu'elle soit guillotinée, qui se souviendrait de celle qui fut pourtant une des femmes les plus célèbres de la Révolution française? Bien sûr, il y eut Marie-Antoinette, Olympe de Gouges, Lucile Desmoulins, Charlotte Corday ou les femmes de Danton. Mais pendant cette révolution, qui fut avant tout une affaire d'hommes, la plupart d'entre elles ont fait de la figuration. Privées du droit de vote, inéligibles, absentes des assemblées révolutionnaires et bien entendu de tous les gouvernements, les femmes vivaient à l'ombre de leur mari. Mais chez Madame Roland, c'était exactement le contraire. Bien avant son mariage d'ailleurs, et avant la révolution, dans un monde qui ne réservait aux femmes qu'un destin de mère de famille et d'épouse exemplaire, la future Madame Roland, qui s'appelait alors Marie-Jeanne Flippon, préférer la solitude et la lecture des philosophes des Lumières.
Oh, Voltaire, rien que ça. Notre apprenti a les idées larges.
Est-ce que je t'ai jamais interdit une seule lecture?
Il n'y a rien dans notre bibliothèque, j'ai déjà tout lu.
Quel appétit.
Mais maman, j'ai besoin des livres.
Je sais, le monde t'ennuie.
C'est pas ça.
Tu m'inquiètes, Manon. Tu t'isoles trop.
Pardonnez-moi, monsieur. Je cherche l'étage où habite mademoiselle Flippon, si vous connaissez.
Qui êtes-vous d'abord?
Jean-Marie Roland de la Platière, monsieur.
C'est donc vous, monsieur Roland. Si vous tenez vraiment à affronter ma fille, c'est au deuxième étage, mais bon courage, monsieur.
Alors, non seulement monsieur Roland va affronter mademoiselle Flippon, mais il va même en faire sa femme, madame Roland, à laquelle vous venez de consacrer une belle biographie. Pierre Canugentil, bonjour.
Bonjour.
Alors, 200 ans après sa mort sur l'échafaud, on se souvient beaucoup plus de madame Roland que de son mari, qui était pourtant ministre de l'Intérieur de la Révolution, alors qu'elle n'exerçait aucune fonction officielle. Pourquoi cette célébrité? Est-ce à cause de sa mort et de son courage sur l'échafaud, ou tout simplement parce qu'elle a joué un rôle important pendant la Révolution?
Oui, je crois que c'est pour cette raison-là. C'est parce que, en réalité, sous la Révolution, deux femmes seulement ont joué un véritable rôle politique, Marie-Antoinette et Madame Roland. D'autres femmes, comme vous l'avez rappelé, se sont signalées, mais elles sont deux seulement à avoir eu une influence sur le cours des événements.
Alors peut-être aussi à cause de sa personnalité, de sa culture aussi, et cela dès l'enfance, on l'a entendu, elle lisait beaucoup, et pas seulement Voltaire.
Non, elle a lu, très jeune, elle avait lu tous les philosophes de l'époque, d'Holbach, d'Alembert, Malebranche, et puis bien sûr les auteurs plus anciens, Fédelon, Molière.
Plus tard, elle avait une passion pour
d'abord,
plus tard.
Et sa passion, à 9 ans.
La vie des hommes illustres.
À 9 ans, ouais. Ça a été la vie des hommes d'Ulysse de Plutarque. Qu'à 9 ans, elle dit qu'elle l'emmenait à la messe tellement elle était avide de poursuivre la lecture de Plutarque.
Et puis surtout, alors un personnage essentiel, dont la lecture a été essentielle pour Madame Roland, parce qu'elle s'est inspirée de tous ses héros, c'est Jean-Jacques Rousseau.
Oui, c'est Jean-Jacques Rousseau, mais curieusement, elle ne le découvre que très tard, c'est-à-dire à l'âge de 21 ans, mais c'est une véritable illumination. Elle réalise à cet instant que Rousseau et les idées de Rousseau, les sentiments exprimés par Rousseau correspondent à tout ce qu'elle ressent en elle depuis des années et à tout ce qu'elle recherchait en réalité à travers les autres lectures.
Alors ce qu'elle va rechercher en revanche avec un mari, c'est quelqu'un qui soit au moins à la hauteur, hein, parce que c'était vraiment un bas bleu. À l'époque, c'était assez rare. Les jeunes filles de l'époque n'étaient pas éduquées du tout pour lire les philosophes de Lumière. Alors le mari qu'elle va chercher, c'est d'abord un mariage d'amour, mais aussi c'est quelqu'un qui nécessairement doit doit être un homme cultivé. Justement, Roland, qui était, je crois, inspecteur des manufactures, hein, je crois. Roland, lui, c'était aussi un encyclopédiste.
Absolument. Roland est un personnage qui, compte tenu effectivement de la personnalité exceptionnelle de sa femme, a été un peu négligé par les historiens et considéré comme quelqu'un de médiocre. C'était tout le contraire. C'était pas un politique aussi talentueux que les grands noms de la Révolution, que nous connaissons tous, mais c'était un haut fonctionnaire, inspecteur des manufactures, c'est-à-dire qu'il a gouverné les questions économiques, il a représenté le gouvernement de l'ancien régime pour les questions d'industrie et de commerce dans plusieurs régions, en Normandie, en Picardie et enfin à Lyon. C'est une sorte de super préfet en matière industrielle et commerciale, et aussi un encyclopédiste à l'image de Condorcet, de Monge, de toute une série de personnages qui sont très célèbres. Il avait été choisi par Panckoucq pour rédiger certains articles de l'encyclopédie.
Il a 20 ans de plus qu'elle, hein. Je crois qu'elle est née en 1754, lui en 1734, mais alors il partage la même passion ou la même volonté, parce que nous sommes avant la Révolution, de réformer la société française, Pierre Cornu-Gentil.
Oui, absolument. Elle est une fille des Lumières. Elle est donc passionnée effectivement par les idées nouvelles dès son plus jeune âge. Elle est républicaine très tôt. Ce qu'on sait peu, c'est que dès l'âge de 18 ou 20 ans, elle écrit à un ami en disant « Si j'avais dû choisir le régime dans lequel j'aurais voulu naître, j'aurais choisi la République. » Mais bien sûr, c'est une chimère, c'est même une folie. Mais elle est passionnée par les idées nouvelles et elle a très tôt le sentiment, et son mari aussi, que l'ancien régime ne peut plus durer et qu'il est condamné à périr d'une manière ou d'une autre.
Et ils se marient tous les deux en 1780, 9 ans avant la Révolution, qu'ils attendent tous les deux impatiemment à Lyon, où Roland, donc, est inspecteur des manufactures.
Ce matin, Roland est parti de bonne heure inspecter la manufacture. Grâce à lui, je découvre des réalités auxquelles j'étais étrangère. Sais-tu qu'un ouvrier gagne 40 sous, alors que le pain, encore plus cher qu'à Paris, coûte jusqu'à 8 sous la livre. La condition des paysans est pire encore. Ils sont exsangues et de plus en plus rançonnés. C'est révoltant, tout simplement.
Manon ! Manon ! Le tiers-état a résisté au roi. Regarde, il s'est constitué en Assemblée nationale. Tu entends ? Les députés ont fait les serments de donner une constitution au pays. Manon, tout commence. La France accouche de sa révolution.
Alors Pierre Cornu-Gentil, en fait, ni Roland ni sa femme n'assistent au début de la Révolution. Ils sont à Lyon, mais alors ils sont enthousiastes. Hein. Elle écrit « La Révolution survint et nous enthousiasma, nous l'accueillîmes avec transport ». Donc ils sont très heureux au fond de
ça. Absolument, et elle est d'autant plus enthousiaste que depuis des années, elle n'y croyait plus. Elle avait renoncé à espérer un changement de régime parce qu'effectivement, rien ne le laissait prévoir finalement. Et qu'elle ne croyait pas à l'utilité de la guerre des parlements dont elle avait décelé très vite qu'en réalité, ils ne cherchaient qu'à défendre leurs privilèges. Donc elle avait pas compris que le mouvement de révolte des parlements pouvait entraîner derrière lui une vraie révolution. Donc, comme vous dites, elle l'accueille avec enthousiasme, d'autant que depuis toujours, elle a en fait envie d'agir.
Et alors, elle se met, d'ailleurs, elle agit tout de suite, parce qu'elle se met à écrire dans un journal révolutionnaire, mais alors sans signer. Alors ça, c'est une chose qu'on oublie un peu. Sous l'Ancien Régime, on sait bien que les femmes étaient généralement mises à l'écart de la vie publique, mais même sous la Révolution, vous citez un journal révolutionnaire qui s'appelle Le Moniteur, à l'époque, et qui écrit, pendant la Révolution, femme, vous voulez être républicaine, soyez simple dans votre mise, laborieuse dans votre ménage, ne suivez jamais les assemblées populaires avec le désir d'y parler, mais que votre présence y encourage quelquefois vos enfants, alors la patrie vous bénira parce que vous aurez réellement fait pour elle ce qu'elle doit attendre de vous. Autrement dit, restez à l'écart, ne pas intervenir.
Voilà, elle était tout à fait consciente de cette situation-là.
Mais elle l'a même acceptée, c'est ça qui était étonnant. C'était une femme, mais c'était pas une féministe, en fait.
Exactement, c'était pas une féministe. D'ailleurs, les féministes l'ont mal considérée à cause de ça, et je pense que les féministes ont tort, parce qu'elle était en réalité ni une idéaliste, ni une théoricienne, ce qui fait qu'elle était d'abord une politique, une femme d'action, et elle avait compris que si elle voulait agir, fallait surtout pas qu'elle le fasse trop de manière trop évidente, et qu'en réalité, les révolutionnaires étaient plus misogynes encore que ne l'étaient les tenants de l'Ancien Régime. C'est pourquoi, au début, elle écrit dans le Patriote français en dissimulant son nom, et ça n'est que très tard qu'elle acceptera de se mettre sur le devant de la scène.
Oui, parce que donc ils étaient à Lyon au début. En février 1791, monsieur et madame Roland arrivent à Paris. Alors elle assiste aux réunions de l'Assemblée, elle assiste aux réunions du Club des Jacobins. Alors elle n'intervient pas. Alors cela dit, elle a joué un rôle, on a beaucoup entendu parler de cela, dans ce qu'on appelait le salon de madame Roland, c'était rue Guénégaud, et là elle recevait tout le gratin de la Révolution.
Absolument. Donc ça, ça a commencé au début de l'hiver 1991, à peu près jusqu'en juin 1991. Elle tenait un salon, mais ce qu'on n'a peut-être pas assez dit, c'est que ce salon était très différent de ceux qu'on connaît par ailleurs, Madame Geoffrin, Madame de Staël, qui étaient des salons des Lumières où on philosophait beaucoup et il y avait des mondanités. Elle, c'était le premier salon strictement politique. Pas de mondanité, pas de philosophie. Se réunissaient là des hommes comme Robespierre, Brissot, Buzot, avec comme seul programme, qu'est-ce qu'on fait à l'Assemblée ce soir ou demain, quelle est la stratégie la plus efficace? On ne fait que de la politique chez Madame Roland.
Et c'est dans ce salon, justement, que les hommes, comme vous venez de citer, apprennent un événement qui va relancer la révolution en juin 1791.
Les amis, la fuite du roi est imminente. C'est pour cette nuit, sans doute.
Tu en es sûr?
Je tiens ça de mes informateurs au journal. Toutes les sources convergent. C'est sérieux.
Si le roi prend le risque de fuir, c'est qu'une coalition le soutient. Le roi veut nous perdre.
Et il se perd au contraire. C'est notre chance, Robespierre. L'unique chance de relancer la révolution.
Battons-nous. Cette fois, nous imposons la République.
Mais tu rêves, Buzot. Qui est prêt pour une République?
Nous. Un soir, disait Condorcet, en plus d'un confrère, j'ai dans la tête un projet qui pourra vous plaire. Il nous faut, mes chers amis, établir en ce pays une république d'une forme unique. Sans craindre d'un important, les discours infâmes, nous mettrons tout en commun, jusque à nos femmes. Si nous agissons ainsi, c'est pour mieux saisir l'esprit d'une république bien démocratique.
Vous êtes sur France Inter, 2000 ans d'histoire aujourd'hui, Madame Roland.
Et c'était Chantal Grimm, La République, une chanson de 1791 tirée des trésors de la discothèque de Radio France. Alors La République, c'est ce que veut Madame Roland, Pierre Cornu-Gentil, et à l'époque, elle était une des rares à y penser. Même Robespierre, on l'a entendu dans cet extrait de film, était contre, on n'en parlait pas, et on était en 1791.
Absolument.
Elle est républicaine.
Les amis de Robespierre, Robespierre lui-même et les Montagnards, deux ans après, accuseront les Girondins et Madame Roland d'avoir été des partisans de la restauration de la monarchie, ce qui était complètement faux. Et on oublie trop souvent qu'en réalité, les premiers républicains, c'était les amis de Madame Roland.
On peut dire qu'elle était, on dirait aujourd'hui qu'elle était à l'extrême gauche de l'Assemblée. Enfin, pas de l'Assemblée, puisqu'elle ne siège pas à l'Assemblée.
Non, mais elle soutenait le petit groupe qui était à l'extrême gauche et qui était républicain. Et c'est vrai qu'il n'osait pas trop le dire, puisque c'était effectivement une manifestation insurrectionnelle. Qui aurait pu avoir des conséquences lourdes. Mais Robespierre était plus timide qu'elle sur ce terrain-là.
Et elle, son rôle va augmenter encore lorsque son mari va devenir ministre de l'Intérieur. Nous sommes encore dans une monarchie constitutionnelle, donc il y a Louis XVI, et il devient ministre de l'Intérieur, un républicain comme Roland devient ministre de l'Intérieur de Louis XVI.
Voilà, c'est un des derniers gouvernements de l'Ancien Régime, mais c'est peut-être un des premiers gouvernements de cohabitation, parce qu'on est dans cette situation un peu paradoxale, où les membres du gouvernement sont des révolutionnaires, hostiles au maintien de la monarchie, et le chef de l'État, c'est toujours le roi à ce moment-là.
Et son rôle à elle, auprès du ministre de l'Intérieur, de son mari?
Alors, son rôle, il est double. D'abord, le salon continue, alors sauf que c'est plus rue Guénégaud, c'est dans les somptueux locaux du ministère de l'Intérieur, et c'est toujours un salon politique, où ses amis se rendent pour discuter de la stratégie qui sera celle des Girondins. Et également s'ajoute à ce rôle déjà ancien pour elle, le fait qu'elle est un peu, on dirait aujourd'hui, qu'elle est le conseiller en communication du ministre. C'est-à-dire qu'elle rédige ses discours, elle rédige ses proclamations et elle le conseille surtout sous l'aspect communication.
Alors justement, c'est même elle qui va rédiger une lettre qui va provoquer le départ de Roland du gouvernement. À l'époque, le roi s'oppose à une décision de l'Assemblée, ce que Roland, dans ce texte écrit par sa femme, reproche justement à Louis XVI en plein Conseil des ministres le 10 juin 1792.
Sire, je sais que le langage de la vérité est rarement accueilli près du trône. Devez-vous aujourd'hui vous allier aux amis ou aux ennemis de la Constitution? Prononcez-vous une fois pour toutes. Si vous ne donnez pas satisfaction à la Révolution, elle sera cimentée par le sang.
L'insolence de cette lettre, monsieur, est incompatible avec les fonctions que vous exercez.
Je vous prie donc de considérer que vous ne faites plus partie de ce conseil.
Citoyens, Roland a démasqué le roi. Sa lettre est un acte exemplaire.
Alors à ce moment-là, on est en juin 1792, Pierre Cornu Gentil, et Roland est à l'évidence, avec sa femme, puisque c'est elle qui a rédigé cette lettre, un des personnages, ou des deux personnages les plus importants de la Révolution. Ils se sont dressés contre le roi, même si ça a coûté à Roland son ministère.
Effectivement, cette lettre a joué un rôle déterminant dans le cours de la Révolution, et pour la popularité de Roland et des Girondins, et elle a réalisé un véritable coup politique. C'est le premier coup politique, le seul peut-être qu'elle a réalisé, mais qui a été considérable, parce que, comme vous dites, ça a conduit Roland à perdre son ministère, mais c'était voulu. Elle a senti qu'il fallait que Roland fasse une belle sortie, en tout cas une sortie utile politiquement, et elle y est parfaitement parvenue, puisque dans cette lettre, Roland annonce ce qui va se passer, et ce qui s'est passé effectivement ensuite, c'est-à-dire la guerre civile
qu'elle souhaitait la guerre civile, elle l'a même écrit en 1791, et puis alors brusquement, justement, leur attitude à tous les deux, à monsieur et madame Roland, change complètement, brusquement, les voilà qui deviennent des modèles. Il faut rappeler qu'entre-temps, en août 92, le roi est destitué, qu'on désigne une assemblée constituante. Mais à ce moment-là, Madame Roland, qui était en pointe dans la Révolution, commence à s'en méfier. Elle est devenue hideuse, dit-elle. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il s'est passé que l'objectif des Roland et des Girondins, c'est effectivement la République et la chute du trône. Et ils considèrent qu'au lendemain du 10 août, puisque le roi n'est plus sur le trône et que la République va pouvoir être mise en place par la Convention qui doit être élue dans les semaines qui viennent, ils considèrent que la Révolution est achevée. Et ils vont vivre à partir de là le drame de tous ceux qui, à un moment donné, ont considéré que la Révolution était achevée. Ça a commencé avec les monarchiens en 90, puis les feuillants, puis effectivement les Roland et les Girondins, et puis Robespierre lui-même aussi voudra d'une certaine manière achever la révision, il n'y arrivera pas. Et donc ce qui caractérise cette révolution, c'est qu'effectivement l'accélération de l'histoire est phénoménale, et ces gens qui étaient à l'extrême gauche en juillet 1792 vont se retrouver juillet 1792 vont se retrouver dès septembre, avec les massacres de septembre, vont se retrouver à droite de l'Assemblée, parce qu'effectivement pour eux plus aucune violence n'est nécessaire, puisque la monarchie est tombée. Mais c'est pas ce que pensent les Matagnards et la Commune insurrectionnelle.
Et on va les retrouver d'ailleurs partisans d'une certaine indulgence avec le roi au moment de son procès. Alors, elle, Madame Roland, et ses amis sont devenus des modérés et la cible des députés d'extrême gauche dans une assemblée nationale qui, quelques mois plus tôt, les accueillait triomphalement.
Personne ne rend plus justice que moi, Roland. Mais si vous lui faites une invitation, pensez à en faire aussi une à sa femme. Chacun sait que Roland n'est pas seul dans son département. Peut-être avons-nous besoin de ministres qui voient par d'autres yeux que par ceux de leur femme.
J'importe à la pratique que Roland est une femme intelligente, qui lui inspire certaines résolutions. Ses propos ne signent que la bassesse de ceux qui les emploient.
Alors les attaques contre Roland et sa femme ne se produisent pas seulement à l'Assemblée, mais aussi dans les journaux révolutionnaires, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, à partir de septembre 1792, les Roland sont l'objet d'une campagne diffamation, d'une bassesse qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Marat, par exemple, accuse Marie d'avoir trop d'influence sur son époux. Roland n'est, dit-il, qu'un frère coupe-chou que sa femme mène par l'oreille. C'est elle qui est le ministre de l'Intérieur. Mais le plus virulent à l'époque, c'est Hébert, dont le père Duchesne, un journal satirique très grossier, très populaire et très influent. Aussi. Nous avons détruit la royauté et foutre. La tendre moitié du vertueux Roland met aujourd'hui la France à la lisière, comme les Pompadour et les Barry. Hébert s'en prend aussi à la femme de tête qui a un salon. Comme Marie-Antoinette, Madame Coco, étendue sur un sofa, entourée de tous ses beaux esprits, raisonne à perte de vue sur la guerre, sur la politique. Et le père Duchesne ridiculise Roland en le traitant même de cocu. Il était minuit et la vertueuse Roland, dans les bras de son négrillon, se délassait des plaisirs moraux que lui procure son foutu tondu de mari. Dans les rues, des affiches accusent Madame Roland de profiter de la vie chère. Égorger avec le glaive de la farine le bon peuple est une idée agréable dans laquelle elle se complaît, cette autre galigaille. La galigaille était une favorite de Marie de Médicis, très impopulaire et qui, accusée de sorcellerie, finira décapitée, un triste présage. Même à la Convention, les Jacobins reprennent ces calomnies. Par exemple, Poultier, député du Nord, Roland a toujours une table abondante et délicate, et la dame Roland en fait merveilleusement les honneurs. je crains bien que quelques mouvements ne renversent un jour la table et les convives. Même Camille Desmoulins, oui, lui, il compare Marie à Circé, la sorcière qui, dans la mythologie, transforme en pourceau les marins d'Ulysse. Et Desmoulins ne s'arrête pas là dans la calomnie, comme c'est souvent le cas quand elle a pour objet une femme. Il ne faut pas croire que cette Circé ne sache que changer en pourceau ses compagnons. Elle a recours à d'autres enchantements qui, à son âge et avec son peu de beauté, supposent une bien plus grande magicienne. C'est pas très joli. Marie est bien sûr effarée. « Je doute qu'on ait publié plus d'horreurs contre Antoinette, à laquelle on me compare, dit-elle. Je suis Galigaille, Brinvilliers, Lavoisin, tout ce qu'on peut imaginer de plus monstrueux. Et les dames de la halle veulent me traiter comme Madame de Lamballe. » La princesse de Lamballe, cette proche de Marie-Antoinette, a été lynchée par la foule en septembre 92, le corps mis en lambeaux et la tête promenée sur une pique. Marie Roland donc n'a pas beaucoup d'illusions sur son sort et elle tente néanmoins de tenir bon. Toujours dans la tempête, toujours sous la hache populaire. Il faut ramer toujours et mériter jusqu'à l'ostracisme s'il doit être la récompense de la vertu.
Alors ces textes, on les trouve dans votre livre, Pierre Cornu-Gentil, sur Madame Roland. Alors ils sont pour les premiers d'entre eux extraordinairement violents. Hein, Hébert, qui dit d'ailleurs toujours foutre, dès qu'il écrivait quelque chose, il mettait toujours le mot foutre, mais c'est d'une violence incroyable. Pourquoi comment expliquer cette violence? Vous dites dans votre livre qu'ils étaient devenus ceux qui étaient l'idole des plus extrémistes des révolutionnaires quelques mois plus tôt, étaient devenus la cible de ces mêmes révolutionnaires parce que, au fond, c'était en quelque sorte des boucs émissaires.
Oui, c'est-à-dire que, comme on disait à l'instant, ils ont voulu arrêter la révolution et Marat, Hébert et tous les extrémistes montagnards et révolutionnaires ont eu cette intuition géniale de comparer le couple qui gouvernait l'exécutif depuis le renversement de la monarchie, c'est-à-dire Roland et sa femme, au couple de l'Ancien Régime.
Puis c'est ministre de l'Intérieur, c'est
oui,
important ça.
C'est vrai, c'était le plus ministère, parce que l'Intérieur recouvrait à peu près tout ce qui n'était pas les finances et les affaires étrangères, pratiquement. Donc c'était un ministère considérable. Il était le personnage principal de l'exécutif. Sa femme, tout le monde le savait, était auprès de lui. Et donc, l'idée de les comparer au couple royal venait immédiatement à l'esprit et on expliquait que tant qu'un couple semblable à Louis XVI et Marie-Antoinette gouvernait le pays, bien sûr, la révolution ne pouvait pas être terminée.
Sa femme était auprès de lui, dites-vous, mais justement, elle était également amoureuse d'un révolutionnaire qui était Buzot. Ça explique les accusations quand je ne sais plus lequel des révolutionnaires le traite de cocu.
Absolument. Alors, personne ne savait à l'époque. On a su seulement en 1864 qui était l'homme qu'elle aimait passionnément et qui le lui rendait bien. Mais tout le monde savait, et la rumeur disait qu'elle avait un ou des amants. En réalité, elle avait un homme qu'elle aimait, dont on ne sait pas si elle a été la maîtresse d'ailleurs. Mais enfin, elle a vécu une passion folle et très belle avec Buzot, mais totalement secrète, puisque c'est seulement 80 ans ou 60 ans après sa mort qu'on a su que c'était Buzot.
Alors, elle est arrêtée, Madame Roland, le 31 mai 1793. Son mari réussit, lui, à s'enfuir. Elle va en prison. Elle va avoir un courage tout à fait extraordinaire en prison, où elle est restée pendant 5 mois. Elle a même écrit, je crois, ses mémoires, mais un courage formidable jusqu'à l'échafaud, parce qu'en fait, elle était condamnée.
Voilà, et elle l'a su assez vite, elle l'a deviné assez vite, mais elle a fait de la politique et de l'action politique jusqu'au bout, et pour elle, l'action politique, à partir du moment où elle était enfermée et vouée à la mort, c'était écrire ses mémoires pour témoigner devant les générations futures du sort qui lui avait été réservé et de ses idées et de son combat. Et puis, le jour de sa mort, c'était effectivement être un modèle de résistance à l'oppression, et elle a fait preuve d'un courage, c'est-à-dire qu'elle est allée à la mort, le sourire aux lèvres, jusqu'à provoquer les sourires ou l'amusement de pauvre Lamarche, qui était un autre condamné qui subissait le même sort qu'elle ce jour-là, et qui lui tremblait de tous ses membres, mais elle est arrivée à lui arracher quelques sourires.
C'est à l'époque de la terreur, on est en train de liquider tous les Girondins. Que sont devenus d'ailleurs son mari, je crois, s'est suicidé au moment de sa mort, voilà. Et Buzot lui-même.
Alors, son mari s'est suicidé quelques jours après, aussitôt qu'il a appris sa mort, il était caché près de Rouen, et Buzot lui-même faisait partie des Girondins proscrits, d'un petit groupe de Girondins proscrits du côté de Saint-Émilion. Il se cachait depuis des semaines et depuis des mois, même lorsqu'il a appris la mort de Madame Roland. Il en a été effectivement désespéré. Ils ont poursuivi leur course folle d'hommes traqués qui risquaient la mort à chaque instant. Et finalement, constatant qu'il ne s'en sortirait pas dans la région de Bordeaux, qui était aux mains des montagnards, avec son camarade de proscription, qui était Pétion, ils se sont suicidés au petit matin dans un champ. Et on a retrouvé leur corps 2 jours après.
Et cela pendant que Madame Roland montait à l'échafaud, quelque temps après que Madame Roland soit montée à l'échafaud. Merci Pierre Cornu-Gentil. On se quitte justement sur cette dernière scène du film remarquable d'Edouard Molinaro. Madame Roland, les dernières minutes et les derniers mots devenus historiques de Madame Roland devant l'échafaud, le 8 novembre 1793.
Où prenez-vous ce courage?
Là, je crois. dans ce cri.
À mort la Roland ! À la guillotine !
Mais j'y vais, citoyen, j'y vais. Liberté. Que de crimes on commet en ton nom.
Je rappelle que mon invité d'aujourd'hui, Pierre Cornu-Gentil, est l'auteur d'un livre passionnant, qui est en même temps d'ailleurs une histoire de la Révolution, vue à travers tous ses personnages, et le personnage de Manon Roland, donc, dont Pierre Cornu-Gentil a écrit la biographie chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits de Manon Roland, un téléfilm d'Édouard Molinaro, avec Sabine Audepin dans le rôle de Madame Roland, et Jacques Perrin dans celui de Monsieur Roland. Je rappelle que cette émission a eu lieu à l'occasion de la journée du Sénat, du livre d'histoire, qui se tiendra demain, samedi, au Sénat, et consacrée cette année à l'histoire des femmes. Des débats publics auront lieu à partir de 11h et j'espère vous y retrouver donc demain puisque c'est en public au Sénat à Paris. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Sandrine Laurent, documentation Virginie Bloch-Lenné et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.